Chers frères et sœurs, le Seigneur a mis sur mon cœur de vous parler ce soir de cette grâce de Dieu. Cette grâce de Dieu qui a été manifestée et qui apporte le salut à tous les hommes. Cette grâce que nous trouvons dès le début de la Genèse et qui traverse toutes les Écritures comme un fleuve merveilleux. Et pour donner une assise biblique à ce moment d'édification, je lirai quelques versets déjà dans le chapitre 2 de la Genèse, où nous trouvons cette première mention de ce fleuve qui est celui de la grâce de Dieu. Au chapitre 2 de la Genèse, au verset 10e, nous lisons cette parole. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, ce jardin de délices et de charme où le premier homme avait été placé par Dieu pour le garder. Et il est dit que ce fleuve qui arrosait le jardin se divisait ensuite et devenait quatre rivières. Et je voudrais insister sur le fait que quand nous méditons la parole, nous pouvons nous arrêter sur chaque mot, parce que chaque mot est inspiré de Dieu et a un sens que nous devons découvrir dans la prière. Le Seigneur n'a pas voulu simplement nous donner des récits, mais il a voulu que par sa parole, nous soyons consolés, que nous soyons enseignés, que nous soyons édifiés, dirigés. Et nous allons voir tout à l'heure ce que peut signifier ce fleuve qui se divise en quatre rivières. Le nom de la première est Pishon. C'est elle qui entoure tout le pays de Havila où il y a de l'or. Et l'or de ce pays-là est bon. Là est le bdellium et la pierre d'onyx. Et le nom de la seconde rivière est Guyon. C'est elle qui entoure tout le pays de Cush. Et le nom de la troisième rivière est Idekel, c'est-à-dire le Tigre. C'est elle qui coule en avant vers Assur, la Syrie. Et la quatrième rivière, c'est l'Euphrate. Et si vous continuez de lire la parole, vous retrouvez cette eau du fleuve même dans le désert. Dans le livre de l'Exode, nous savons que en plein désert, quand les Israélites ont crié à Moïse parce qu'ils avaient soif, eh bien, dans ce désert, Dieu a fait jaillir un fleuve. Mais ce fleuve venait d'un rocher. Chapitre 17 de l'Exode, il est question d'un rocher qui a été frappé et une eau abondante a jailli au sein du désert. cette eau encore était l'eau de la grâce infinie de Dieu. Et nous savons que le rocher frappé, comme nous le dit l'apôtre Paul, c'était le Christ. Christ a été frappé et il était déjà dans le désert ce rocher qui suivait le peuple d'Israël de telle manière que le peuple a pu subsister par la pure grâce de Dieu au sein même du désert. Donc la grâce qui sortait d'un jardin, du jardin d'Eden, elle sortait aussi dans le désert de ce rocher frappé qui a été Jésus, frappé, blessé pour nous. Et si vous continuez cette étude à travers les Écritures, vous trouvez que le fleuve peut se manifester aussi au fond d'une vallée aride, d'une vallée profonde. Il est dit que là, au chapitre 21 du Deutéronome, dans cette profonde vallée, nous trouvons un torrent qui ne tarit point. La grâce de Dieu est vraiment une source intarissable. Puis, passant plus loin au milieu de l'Écriture, on retrouve les traces de ce fleuve dans les psaumes. Au psaume 46e, par exemple, il est dit au verset 4, « Il y a un fleuve dont les ruisseaux réjouissent la ville de Dieu, le saint lieu des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle ne sera pas ébranlée. Dieu la secourra au lever du matin. » Maintenant, nous voyons le fleuve qui sort de la cité de Dieu. Et il est dit que ce fleuve se divise en ruisseaux, et on peut dire que chaque croyant a son ruisseau. Et quand on pense à ce ruisseau, je vais au psaume 65, au verset 10, où il nous est dit que le ruisseau de Dieu est plein d'eau. N'est-ce pas merveilleux de penser que de ce fleuve de la grâce partent des ruisseaux. Et chacun de vous a son ruisseau. Et ce ruisseau alimenté par le fleuve ou le torrent inépuisable, ce ruisseau est plein d'eau. Oh, que Dieu nous donne ce soir d'être conscients que chacun de nous, nous pouvons nous désaltérer à ce ruisseau de Dieu. Dans le chapitre 47 d'Ézéchiel, donc, vous retrouvez ce fleuve dans les prophètes, et vous voyez que Ézéchiel est appelé à traverser une rivière ou un fleuve, et que l'eau, quand il avance, l'atteint d'abord jusqu'aux chevilles des pieds, puis après, l'eau monte jusqu'aux genoux, et il avance davantage, et l'eau l'atteint au rein, et finalement, il est dit que c'est un fleuve dans lequel Ézéchiel nage. Il est porté par la grâce de Dieu. Et c'est tellement merveilleux de penser que la grâce qui nous a apporté le salut continue dans notre vie de tous les jours de se manifester et de nous remplir davantage, car le Seigneur Jésus, par sa venue, nous a apporté vraiment grâce sur grâce. Car qu'est-ce que c'est que la grâce de Dieu ? Bien, c'est le don de son fils bien-aimé. Si la loi est venue par Moïse, nous savons que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. De sorte que c'est dans la connaissance du Seigneur Jésus que nous puisons la grâce. Et cette grâce devient vraiment une source qui jaillit en vie éternelle. C'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Quand la femme samaritaine a rencontré le Seigneur Jésus qui lui demandait à boire, ils ont parlé d'une eau vive et Jésus a présenté cette eau vive en lui disant « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te parle, c'est toi qui lui aurais demandé à boire et il t'a donné de l'eau vive. » Et il ajoute que celui qui croit en lui, eh bien, cette eau devient jaillit en vie éternelle. Puis, dans le chapitre 7 de Jean, parlant aussi du Saint-Esprit qui serait donné à l'Église, aux croyants, il dit que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. J'aurais pu aussi m'arrêter sur le chapitre 14 de Zacharie, où il est parlé aussi de ce fleuve qui sortira de la ville de Dieu, de Jérusalem. Et si vous arrivez au chapitre 22 de l'Apocalypse, vous retrouvez encore ce fleuve. Il me montra un fleuve d'eau vive, éclatant comme du cristal, sortant du trône de Dieu et de l'agneau. Donc, je vous ai simplement montré que le fleuve de la grâce de Dieu coule à travers toutes les Écritures. Et il n'y a pas de situation dans laquelle nous puissions nous trouver sans que nous connaissions cette grâce merveilleuse qui correspond à tous nos besoins. Mais je voudrais simplement m'arrêter maintenant sur les manifestations diverses de cette grâce de Dieu, en revenant au texte de la Genèse, où nous est parlé de ce fleuve qui devient quatre rivières. Le chiffre 4, c'est le chiffre universel, et c'est comme si le Seigneur voulait nous montrer dès le début que malgré la chute, eh bien, la grâce de Dieu se manifestera aux quatre points cardinaux. La grâce de Dieu coule vers les quatre points cardinaux et elle apporte le salut à tous les hommes. Et il est dit que le nom de la première de ces rivières est Pishon. Et Pishon veut dire littéralement surabondance. Donc, la grâce de Dieu, quand elle nous sauve, elle nous apporte une surabondance de vie. Le Seigneur ne veut pas que les siens, les croyants, aient seulement la vie, mais qu'ils l'aient en abondance. Et déjà dans la Genèse, nous voyons cette surabondance que nous apporte la grâce. Le salut, c'est pas simplement, ben voilà, je suis sauvé, je n'irai pas en enfer, au moment de ma mort, je peux compter sur le Seigneur. Non, le salut, c'est quelque chose qui nous est donné pour vivre sur la terre d'abord. Et ensuite, dans la gloire. Mais ce que nous devons bien saisir, c'est que la grâce de Dieu voudrait pouvoir se manifester d'une façon surabondante dans chacune de nos vies. Car vous voyez ce qu'il est dit, que le nom de la première épichon, donc qui veut dire surabondance, c'est elle qui entoure tout le pays de Havila où il y a de l'or. Et si vous vous arrêtez à chaque mot, qu'est-ce que vous trouvez dans ce pays de Havila? On y trouve de l'or. Et il est dit que l'or de ce pays est bon. Et on pense que c'est cet or d'Ophir. Dans le pays de Havila, il y a cette ville Ophir où je suis allé personnellement il y a quelques années. Eh bien oui, l'or d'Ophir, plusieurs fois il en est parlé dans l'Écriture, c'est l'or le plus excellent. Eh bien, quand la grâce qui vous apporte le salut se manifeste en vous, ce que vous savez, c'est qu'elle vous donne cette grâce, la nature divine. Et l'or nous parle de la nature divine. Nous avons reçu par grâce la nature de Dieu. Ce n'est pas simplement nous sommes enfants de Dieu, ce n'est pas quelque chose de sentimental, mais comme l'a rappelé notre frère dans la prière, nous sommes enfants de Dieu. Non seulement nous sommes appelés enfants de Dieu, mais nous le sommes. Et ça veut dire que nous avons une nouvelle nature, et c'est la nature même de Dieu. Quand la grâce nous a atteints, eh bien, elle nous a apporté cet or si bon. C'est l'or de ce pays-là est bon. Mais pas seulement la nature de Dieu. Elle nous a apporté cette grâce aussi, le bdellium. Là est le bdellium. Alors on se demande, mais qu'est-ce que c'est que ce bdellium? Le bdellium, c'est une... Dans, si vous voulez, une explication qui parle à votre cœur simplement par la Bible, dans le livre des Nombres, au chapitre 11, nous apprenons que la manne avait l'apparence, verset 7, la manne était comme la graine de coriandre et son apparence était comme celle du bdellium. Et le bdellium, c'est une substance résineuse et aromatique, et nous apprenons que la manne avait cette apparence du bdellium, de cette substance que l'on trouve dans l'Orient. Alors, ce que nous trouvons ici, c'est que là où coule la grâce, cette grâce nous entoure, elle entoure le pays de la ville, elle nous entoure de toutes parts. Et elle nous apporte la nature de Dieu, l'or, elle nous apporte le bdellium qui nous fait penser à quoi? À la manne, c'est-à-dire une nourriture spirituelle. Un chrétien qui vit de la grâce de Dieu, c'est un chrétien qui peut dire qu'il est nourri, nourri par la parole de Dieu. Non pas simplement par des prédications qu'il va écouter, mais... il éprouve, en lisant la parole, que cette parole est une nourriture. Et il fait l'expérience de Jérémie, qui pouvait dire, tes paroles se sont-elles trouvées? Je les ai mangées. Elles ont fait l'allégresse et la joie de mon cœur. Oh mes amis, comme c'est précieux de connaître la grâce de Dieu et tout ce qu'elle apporte. Vous êtes entourés par la grâce. Et dans ce cercle de la grâce, vous y trouvez l'or merveilleux de la nature divine, et puis vous y trouvez une nourriture quotidienne. Et puis il est dit aussi la pierre d'onyx. C'est une pierre précieuse. Et à quoi nous fait penser la pierre d'onyx? On retrouve dans la parole, n'est-ce pas, la pierre d'onyx sur les épaulières de l'éphod du sacrificateur. et il y avait deux pierres d'onyx de chaque côté, et sur ces pierres était gravé le nom des tribus d'Israël. Et puis, sur les 12 pierres de l'éphod du sacrificateur, qui était là sur son cœur, il y avait aussi une pierre d'onyx. Et c'est ainsi que le sacrificateur, quand il entrait dans le temple, il portait sur son cœur le nom des enfants d'Israël et il les portait aussi sur ses épaules. Et pour nous, c'est l'expérience que nous faisons quand nous connaissons la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui nous a apporté le salut, elle nous entoure maintenant. Et elle est si large, elle est surabondante, et elle nous donne ce privilège de savoir que quotidiennement, jour et nuit, le Seigneur est là devant son Père et nous porte sur son cœur et sur ses épaules. Alors, nous sommes soulagés, nous sommes fortifiés, c'est le Seigneur qui nous porte de jour en jour. Et puisque nous sommes sur son cœur, nous savons que le Seigneur nous aime. Le Seigneur est notre force et le Seigneur nous aime. Oh, que nous faut-il de plus ? Voilà une des manifestations de la grâce de Dieu. Elle coule largement. Elle est pour tous les hommes. Et alors, ça nous encourage dans la prière pour la conversion des pécheurs. Nous savons que Jésus a payé un tel prix pour le salut du monde que nous pouvons lui demander avec instance, mais avec une foi entière, qu'il sauve les âmes. Et les âmes qu'il met devant nous à un autre contact. De sorte que vous ne repartirez pas de ce lieu avec des doutes quant à vos prières. Il les exauce. L'heure n'est pas toujours celle que nous avions pensée, mais nous savons que le Seigneur ne nous trompe pas. Je passe à la deuxième rivière, ou deuxième fleuve, ou deuxième bras de ce fleuve de la grâce. Il est dit que la seconde rivière, verset 12, s'appelle Guyon, et c'est elle qui entoure tout le pays de Cush. Et Cush veut dire noir, et on pense que c'est en particulier l'Éthiopie. Eh bien, la grâce de Dieu entoure le pays noir. Et les âmes qui sont dans les ténèbres, dans la plus grande noirceur, peuvent elles aussi bénéficier de la grâce. Oh, croyez-le, la grâce de Dieu entoure le pays noir. Et si vous voyez encore des âmes dans ce pays noir, le Seigneur peut les toucher par sa grâce. Elle entoure le pays noir. Et Guyon veut dire qui jaillit. Qui jaillit. Si Pichon veut dire surabondance, eh bien, la grâce aussi qui surabonde, elle peut jaillir d'un instant à l'autre. Et vous le voyez, par exemple, avec la femme samaritaine. Hein? Tout à coup, la grâce est devenue jaillissante dans son cœur. Elle a abandonné sa cruche et puis elle est partie dans son propre pays pour dire à ses concitoyens dont elle avait si peur autrefois, « Venez, voyez un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Et cette femme est devenue la première femme qui a évangélisé les âmes de la Samarie. Dieu emploie qui il veut. Combien cela est précieux. La grâce peut jaillir d'un instant à l'autre. Puis alors, le troisième nom de la rivière, la troisième rivière est Hiddekel, qui est le nom ancien du Tigre, et Hidekel veut dire rapide, rapide. Et voyez-vous, c'est encore une des manifestations de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu peut atteindre une âme rapidement. Et quel exemple est-ce que je pourrais donner? Parce qu'il est dit qu'elle coule vers le pays d'Assur. Hein. Elle coule vers Assur. Assur, c'est l'Assyrien. Et l'Assyrien a toujours été opposé au peuple de Dieu. De sorte que vous voyez que la grâce peut toucher le cœur le plus réfractaire, le plus éloigné de Dieu, ennemi de Dieu. À qui pouvons-nous penser quand nous réfléchissons, quand nous méditons sur cette grâce qui peut agir rapidement? Je pense à Saul de Tarse. Sur le chemin de Damas, il ne va pas pour évangéliser. Il va pour persécuter les chrétiens de Damas. Non content d'avoir gardé les vêtements de ceux qui lapidaient Étienne, eh bien, il respirait encore la violence et la menace, et il allait pour arrêter les croyants de Damas. Et tout à coup, la grâce l'atteint comme une flèche. Oui, la rapidité de la grâce de Dieu. C'est pourquoi, chers amis, quand on connaît la grâce et ses diverses manifestations, eh bien, on est tranquille, on est en paix, on prie avec une certitude. Et c'est pas parce que quelqu'un est très loin de Dieu qu'on désespère. C'est peut-être le moment où le Seigneur va l'atteindre. Et Saul de Tarse a été atteint quand il ne s'y attendait pas. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? C'est le Seigneur qui se révèle à nos âmes et qui veut nous sauver. Et enfin, le frac. Pour montrer une des dernières manifestations de la grâce. La grâce, elle coule largement. Elle est pour tous les hommes. La grâce est surabondante. Elle nous apporte toutes les richesses dont nous avons besoin pour que nous ne soyons pas comme des mendiants sur la terre ou comme des gens nus, comme Laodicée, mais revêtus de l'or passé au feu et de vêtements blancs et d'un collier qui nous permet de voir clair, d'avoir une vue claire. Mais il est parlé encore de la quatrième rivière qui est l'Euphrate. Et ce nom en hébreu signifie qui coule doucement. Et voilà encore une autre opération de la grâce de Dieu. La grâce peut vous atteindre comme une flèche, mais comme c'est souvent le cas chez dans les familles chrétiennes, la grâce de Dieu opère doucement. Nous sommes comme baignés par la parole de Dieu dès notre enfance. La grâce nous atteint aux chevilles des pieds, n'est-ce pas? Et puis, il nous faut avancer. La grâce monte jusqu'à nos genoux. On commence d'avoir une vie de prière. Ensuite, elle monte jusqu'aux reins, comme dans le 47 d'Ézéchiel, n'est-ce pas? Les reins qui sont le siège de la force. Et alors, finalement, nous nageons dans la grâce. Il y a bien des personnes qui ne pourraient pas se rappeler d'un jour précis concernant leur conversion, mais la grâce a agi graduellement et finalement, ils ont trouvé l'assurance pleine et entière de leur salut. Ça n'a pas été une conversion radicale comme celle de Saul de Tarse, mais on est sûr de son salut parce que la vie du Seigneur est manifeste dans ses âmes. Eh bien, méditez sur les différentes manifestations de la grâce de Dieu. Et à travers toute la Bible, vous serez édifiés et vous saurez que jamais le Seigneur ne manquera à vos requêtes et à vos prières. Ô Dieu notre Père, nous voulons te bénir pour ce fleuve de la grâce et qui est intarissable. et qui nous donne de l'espérance. Pour toutes ces âmes qui ont été mentionnées dans nos prières ce soir, que tu connais, et pour toutes celles qui ont besoin de toi. Nous sommes si reconnaissants de ce que tu nous as donné et nous voudrions te demander que nous sachions apprécier cet or qui est si bon, de savoir que maintenant nous avons ta nature, que nous sommes réellement enfants de Dieu et que c'est une relation qui ne peut pas être brisée. Nous te bénissons pour tout ce que cette grâce nous apporte et aussi pour l'espérance qu'elle met dans nos cœurs pour les âmes qui n'ont pas encore reçu cette paix, mais que tu veux te révéler à eux et tu peux opérer d'une façon tellement rapide. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, nous ne voulons pas être de ceux qui te demandent de retarder ton retour parce que nous pensons qu'il y a des âmes qui ne sont pas encore prêtes. Nous savons que en un instant, tu peux les amener à toi. Alors donne-nous, avec tous ceux qui t'aiment et qui soupirent après ta venue, de pouvoir te dire, non pas parce que les circonstances sont difficiles, mais parce que nous t'aimons et que nous voudrions être avec toi, oh, que nous puissions tous te dire, viens, Seigneur Jésus. Amen.